Mémoire vive.
Présentée par Christelle Le Polotec.
Et préparée par Rachel Rimmer. Une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour, nous recevons aujourd'hui Hélène Gutkowski, professeure de sociologie à Buenos Aires, à l'occasion de la sortie du premier volume de votre livre, De la France occupée à la Pampa, mémoire entrelacée de 30 survivants juifs émigrés en Argentine, qui vient d'être présenté au Salon du livre du Mémorial de la Shoah et qui est publié dans la collection Témoignages de la Shoah de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, dirigée par Philippe Veil. Alors dans ce livre, Hélène Gutkowski, qui est donc un grand ouvrage qui comportera bientôt deux volumes, vous avez recueilli les témoignages, les récits d'une trentaine d'exilés juifs en Argentine. Ce qui est intéressant, c'est que ces témoins qui sont arrivés le plus souvent après la guerre, vous avez choisi de recontextualiser leur histoire et l'histoire de l'immigration juive en Argentine, donc qui était au départ une immigration d'origine russe, rurale, ce qui est vraiment une spécificité, et puis qui va commencer à changer à partir des années 30, alors que les portes se ferment. Et pourtant, vous le dites bien dans ce livre, certains juifs arrivent à immigrer en Argentine en pleine guerre, et c'est le cas de certains de vos témoins, d'ailleurs.
Exactement, oui. Alors, effectivement, dans mon groupe, je reprendrai, nous ne sommes pas des exilés. Nous sommes des personnes qui avons survécu à la guerre en France, des Français ou parfois des Belges. Enfin, il y a plusieurs Belges dans le groupe, une personne d'origine allemande, mais nous avons tous la spécificité d'avoir vécu en France une partie ou toute la guerre. Et dans ce groupe de 30 personnes que nous sommes, il y en a 4 ou 5 qui ont pu arriver en pleine guerre, effectivement. Ce qui me semblait, avant de commencer ce livre, impossible. Mais bon, ce n'était pas impossible. Ce sont surtout des personnes qui avaient certains moyens financiers, n'est-ce pas, qui ont pu venir. Alors, si vous voulez, effectivement, l'Argentine, la composition de la communauté juive argentine, à ses débuts, était uniquement rurale, puisqu'elle dépendait, l'immigration des Juifs de Russie est due en grande partie à l'œuvre du baron Hirsch, la colonisation agricole juive. C'était un projet extraordinaire qui aurait pu faire un immense changement dans la condition dans le sort des Juifs après. Bon, ça a été beaucoup plus réduit que ne le pensait le baron, mais quand même, c'est un projet extraordinaire, tout à fait différent de toutes les autres immigrations juives qu'il y a eu à l'époque, non ? Et avant et après.
Ça a été initié quand exactement, ce projet ?
1886 à peu près. C'est très intéressant à raconter, mais bon, ce n'est pas ici le moment, mais c'est vraiment une épopée qui mérite la peine d'être connue. Parce que c'est un projet qui a dépendu en grande partie d'une fortune immense, mais aussi des conditions tout à fait spéciales du pays, qui à l'époque était un pays pratiquement désert. Hein, lorsque les Juifs sont arrivés, on dit génériquement dans la Pampa, bon, mais c'est pas exactement toute la Pampa, mais c'était d'énormes extensions vertes, sans rien. Et en fait, les premiers Juifs qui sont arrivés et qui ensuite ont fondé la ville Moïseville, donc la ville de Moïse, se sont retrouvés absolument démunis de tout, en pleine campagne, sans abri, sans avoir de quoi produire, sans avoir à manger. Il y a eu beaucoup de morts, 60 enfants morts, je crois, dès les débuts de l'immigration de ce premier groupe de 800 personnes. Non, ça a été vraiment très, très difficile. Mais bon, plusieurs années après, le développement s'est produit et c'est un développement qui mérite la peine d'être connu.
Alors, la spécificité de ce livre, vous l'avez évoqué, Hélène Gutkowski, c'est que c'est un ouvrage collectif, d'une certaine manière, où les mémoires vont se confronter, se croiser, se nourrir les unes les autres. Il y a parfois de véritables dialogues au cours desquels vos témoins s'aperçoivent que leurs parents sont passés parfois au même endroit, par les mêmes lieux pendant la guerre. Et vous-même, vous revisitez votre propre histoire.
Oui, c'est exact. Je ne pensais pas que j'allais, disons que c'est un bénéfice que je n'avais pas pris en compte au début de ce livre. Je pensais faire, comme pour mes autres livres, je pensais faire un livre de témoignages croisés pour, à travers ces mémoires qui s'entrelacent, reconstruire, entre guillemets, reconstruire d'une certaine façon cette émigration très spéciale des survivants juifs de France vers l'Argentine. Je me suis rendu compte très rapidement que la plupart des histoires de mes compagnons avaient quelque chose à voir avec la mienne, avec celle de mes parents du moins. Parce que, bon, je ne sais pas si vous le savez, mais je suis née en 40, et quand la guerre s'est finie, j'avais 5 ans. Je n'ai aucune mémoire, ni des 2 ans que j'ai passés dans une famille catholique, loin de mes parents et de mon frère, ni des 2 années antérieures, évidemment. Et ma mémoire ne commence à fonctionner que tout de suite après la guerre, lorsque mes parents, qui sont venus me chercher chez ma nourrice, disons, m'ont ramené à Paris, et voyant qu'ils n'allaient disposer ni de leur appartement, ni de leur boutique, ni de rien du tout, puisque tout était spolié, m'ont envoyé dans une nouvelle famille, la famille qui les avait cachés, eux. Et c'est là que je commence, disons, à vivre. C'est ce que j'appelle cela, je commence à vivre, ma mémoire commence à enregistrer, et surtout du point de vue de l'affection, non? Parce que je pense, je ne suis pas certaine, que la première famille dans laquelle j'ai été, bon, je n'ai rien retenu d'eux, sans doute parce que je n'ai pas senti cette affection ou ce courant, non, affectif. Tandis qu'avec tonton et tata, qui ont été les personnes qui m'ont élevée après la guerre, bon, j'ai commencé à ressentir beaucoup d'amour pour eux. En fait, je les ai considérés comme mes premiers parents, non? Et plus tard, mes parents étaient un peu jaloux même de cette affection que je portais à tonton et tata.
D'ailleurs, c'est ce qui est intéressant dans votre livre, je trouve, c'est que derrière l'histoire, enfin, on n'a pas seulement l'histoire de chacun et des parcours, mais on a aussi ça, en fait, c'est-à-dire la manière dont tous ces enfants ont vécu la relation avec leur tata, leur mère de guerre, ou les gens, les personnes qui se sont occupées d'eux à différents moments. Et finalement, on rentre dans toute la complexité de cette histoire aussi sur la manière dont après, comment on se dépatouille avec tout ça et qu'est-ce qu'on en fait par la suite.
Oui, parce qu'en fait, moi, j'ai toujours pensé que j'avais été abandonnée, entre guillemets. Bon, ça doit marquer très profondément une enfant de 2 ans, 2 ans et demi. Et ensuite, c'est moi qui les ai abandonnés. Enfin, il y a toute une série d'abandons, entre guillemets, toujours, non, dans ma famille. Et bon, ce que j'ai cherché à faire dans ce livre, une fois que je me suis rendu compte de la possibilité de retrouver des faits communs dans chaque histoire, dans toutes les histoires, ce que j'ai essayé de faire surtout, c'est de mettre en valeur justement pas seulement la partie tragique, difficile que nous avons tous vécu, mais surtout le côté positif, si l'on veut dire, de la Shoah, c'est-à-dire les personnes qui ont surmonté la peur, le danger, etc., et même les risques propres, pour aider une famille, un enfant, pour les sauver, pour leur donner à manger, un toit, pour leur donner une indication ou pour les cacher, comme mes parents qui ont été cachés pendant plus d'un an dans une soupente d'une maison au Coudreau, par exemple. Et ça se reproduit pratiquement pas dans tous les témoignages, mais dans la plupart.
Justement, comment il s'est constitué ce groupe de témoins?
Oui, alors ce groupe de témoins qu'on a appelé comme ça un petit peu très vite, mais qui finalement, c'est un nom qui nous plaît, France, point de suspension, douce France de notre enfance, hein, ce groupe s'est constitué par étapes. Il y a d'abord eu la constitution d'un groupe d'enfants cachés qui s'est produite en 1997. À l'époque, il y avait eu aux États-Unis aussi la création d'un groupe de Hidden Child, et nous avons copié un petit peu cette idée. Nous étions 40 enfants cachés à peu près de différents pays. Ensuite, c'est là que j'ai connu mes 15 premiers amis français, qui enfin français ou pas français, mais qui ont survécu en qui avaient survécu en France. Et on s'est tout de suite, très vite senti vraiment comme une grande famille. On pouvait se dire des choses qu'on ne disait pas autre part, parce que même avec nos parents, nos enfants, nos enfants avec qui on parle plus ou moins, mais on ne sent pas la même compréhension du sujet, même s'ils sont très engagés dans la question, on ne se sent vraiment sur une même onde qu'avec des personnes qui ont vécu la même situation. Donc pour moi, c'était la première fois de ma vie que j'avais des copains qui étaient presque des frères, non ? Et des copines. Et ceci en Argentine et en parlant français, c'est-à-dire un petit peu bizarre. Bon, après cette première étape, j'ai eu la chance qu'en 2006, à l'ambassade française, se soit produit un hommage aux survivants juifs de France, établis en Argentine. Et comme je connaissais le conseiller culturel, pour d'autres raisons, c'est lui qui a pris contact avec moi pour me demander si je pouvais l'aider à retrouver des survivants français. Donc bon, j'ai accepté et j'ai retrouvé, entre guillemets, j'ai retrouvé 45 personnes, c'est-à-dire les 15 que je connaissais déjà et 30 nouvelles personnes. Donc c'est à part, j'ai organisé des réunions pour les connaître un peu. Et en entendant leurs histoires, je n'arrivais pas à en croire mes oreilles, parce que c'était vraiment tout le panorama de la guerre. On avait en Argentine pratiquement tout ce qui s'était passé pendant la guerre en France. C'est un peu une chance, si on peut le dire, parce que cela m'a aidé vraiment à me plonger dans l'histoire que je ne connaissais pas ou que je connaissais très peu. Et donc, à partir de ce moment-là, Monsieur de Canson, donc la personne qui m'avait invité de l'ambassade, me disait, quand je lui racontais ce que me disaient mes nouveaux compagnons, « Ah, Hélène, il faut faire quelque chose, il faut enregistrer, il faut garder, il faut faire quelque chose. » Bon, j'avais compris, mais je n'ai pas eu le courage de le faire tout de suite. Ce n'est que 2 ans après, quand est mort la première personne de notre groupe, que je me suis dit « il faut absolument garder tout cela. » Et j'ai commencé à faire ce livre. Donc, il y a eu 3 étapes.
Alors peut-être on pourrait parler déjà des 9 témoins qui sont présents, oui, dans ce premier volume. Certains ont disparu aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous les citer et puis peut-être nous dire ce qu'ils ont en commun, parce que c'est des parcours très différents. Certains ont pu échapper au camp, d'autres comme Elsa ont connu Auschwitz, elle a survécu à la marche de la mort. Mais qu'est-ce qu'il y a en commun dans tous ces témoignages? Qu'est-ce que vous partagez avec eux, avec eux de cette histoire?
Eh bien, le dénominateur commun, c'est que nous ayons passé une partie, comme je l'ai dit, ou toute la guerre en France. Et c'est-à-dire que c'est un double facteur commun. Et d'avoir émigré pendant ou après la guerre en Argentine. Ce que nous avons en commun, bon, c'est la guerre. Sous l'une ou l'autre de ces facettes, c'est la guerre. Vous m'avez dit, certaines des personnes ont déjà disparu. Oui, effectivement. Dans ce premier volume, où il y a 9 témoignages, 4 ont disparu. Et j'ai été très heureuse, enfin c'est une petite parenthèse, j'ai été vraiment très très heureuse qu'à la présentation avant-hier, aient assisté des petits-enfants de deux des personnes qui ne sont plus là, et elles sont venues de loin, elles sont venues de province et les autres d'Allemagne. Et je crois que c'est très fort comme sensation de pouvoir transmettre dans un livre l'histoire d'un grand-père et que la petite fille soit venue de Berlin, par exemple, et ait été si émue et qu'elle ait partagé ces moments. Il y a 4 personnes, comme je vous disais, qui ont disparu, et 3 de mes amis sont venus m'accompagner pour cette présentation. Comme vous le dites, des histoires très différentes. Parmi eux, il y a une personne qui a été déportée et qui a fait une dizaine de camps de travail, qui a pu survivre d'une façon finalement miraculeuse. C'est un terme que M. Delorant a pris en considération, et il voulait savoir un petit peu ce que l'on pensait de ce miracle, non ? Et la personne que vous avez nommée, Elsa, qui n'est plus là, Elsa, elle a été déportée parce qu'elle était dans un réseau de sauvetage d'enfants. Bon, c'est une femme extraordinaire et elle a fait la marche de la mort, elle a réussi à survivre. Et c'était une personne très positive, qui est l'une des rares personnes qui a commencé à parler tout de suite après la guerre, ce qui est très rare, et qui a donné son témoignage, les premiers témoignages qui ont été enregistrés. Et ce qui est intéressant parmi toutes ces personnes, c'est que on ne sent pas de rancune, non, mais le besoin de faire savoir, d'une part évidemment ce qui s'est passé, mais aussi d'autre part d'œuvrer à l'éducation, à la connaissance, enfin à chercher les moyens de ne pas retomber dans ces horreurs.
Et puis il y a beaucoup de réflexions auxquelles on assiste tout au long de ces conversations. Il y a le cas très particulier de Mariette Diamant, oui, qui elle a un parcours complètement différent,
oui,
qui découvre finalement tardivement sa judaïté. Et pour qui c'est une question encore par rapport à ses enfants, par exemple?
Oui, justement, hier nous étions réunis, nous sommes dit au revoir autour d'une table hier, et c'était très bien parce que nous étions donc 4 survivantes, dont Mariette, Claire et Myriam, et une fille ou un fils de chacune d'entre nous, et même une petite fille. Et pour Mariette, ça a été vraiment quelque chose de très important, parce qu'elle n'arrive pas, Mariette se sent encore très, très indéfinie. C'est-à-dire, elle sait qu'elle est juive, elle sait, et elle a été longtemps catholique, et elle l'est encore sûrement. Elle n'arrive pas à séparer les deux choses et elle nous a souvent dit qu'elle souffrait plus que quiconque d'entre nous. Bien sûr, il n'y a pas de mesure de souffrance et on ne peut pas dire je souffre plus ou moins, mais je sais qu'elle souffre beaucoup. Elle souffre encore. C'est un très gros effort pour elle pour devenir ici. C'était la première qui a dit je veux y aller et puis ensuite je ne sais pas si, enfin ma fille, mes petits-enfants, etc. Elle a toujours à surmonter ça, parce que ce n'est pas une histoire quelconque, celle de Mariette. C'est que Mariette, non seulement a été baptisée, etc., communion, école catholique de la haute société, mais c'est aussi qu'elle a été élevée dans un milieu de droite, hein, nationaliste. Donc, il y a une charge très, très forte et elle doit faire face souvent à encore des préjugés dans sa famille, dans certains membres de la famille. Mais peu à peu, ça se met en place. Et ce qu'il y a de magnifique, je trouve, enfin de magnifique du point de vue de l'histoire, c'est que l'une de ses petites filles s'est mariée il y a très peu de temps avec un juif. Et que donc son premier arrière-petit-enfant est juif, d'une certaine façon, non? Et hier, nous en discutions justement avec la fille de Mariette et avec sa petite fille, et ça a été très intéressant.
On va peut-être revenir là plus précisément à l'Argentine, puisqu'on l'a dit, hein, ces parcours voilà, se croisent, se rencontrent en Europe pendant la guerre, parce que certains sont nés en France, d'autres en Biélorussie, hein, c'est vraiment des parcours très...
Belgique,
Allemagne, oui, et Russie, oui, l'une d'elles, Elsa,
Ukraine, un peu, je crois.
Bon, là, je n'ai plus...
En tout cas, toutes ces personnes vont pour leur exil. Alors, je ne sais pas si c'est le mot qui vous conviendra.
Non, moi, je trouve que ce n'est pas l'exil parce que finalement, on aurait... Après la guerre, on aurait... Moi, je suis restée en France.
Oui.
C'est une décision personnelle. Et la décision de partir en Argentine a été liée à la politique immigratoire des pays... possiblement récepteur, et ça n'a pas été facile non plus, ça a été très difficile, parce que vous savez très bien que les États-Unis, après les années 20, ont fermé leurs portes, ensuite les ont rouvertes, le système de quotas, etc. Les États-Unis, qui étaient le pays le plus récepteur de juifs, a mis beaucoup de limites et l'Argentine a pris modèle sur les États-Unis, en ayant peur également, entre guillemets, du péril rouge, non, de l'importation d'éléments communistes. Mais en plus, ce qu'il y avait en plus en Argentine, à part cette peur du péril rouge, c'est le gouvernement qui, à partir de 1930, les différents gouvernements qui ont montré des tendances xénophobes et antisémites. Donc, l'immigration en Argentine a été prohibée de 1930 à 1947. Et bon, la désespération des Juifs pour trouver des pays récepteurs a permis que une certaine quantité de Juifs aient réussi à surmonter ces obstacles, la plupart du temps clandestinement, bien sûr. On arrivait au Paraguay, on prenait des visas pour la Bolivie, et puis on ne pouvait pas entrer directement en Argentine, alors plusieurs familles sont restées 1 an, 2 ans, 3 ans en Bolivie, puis ont essayé de passer clandestinement encore une fois la frontière avec l'Argentine. Ça marchait parce que les frontières argentines sont très, très, très longues.
Très longues.
Et puis il y a à peu près 10 000 personnes qui sont arrivées comme touristes. Les personnes qui avaient un peu plus d'argent, qui pouvaient se permettre une croisière, sont arrivées comme touristes, ont débarqué, sont restées. Et bien sûr, ils ont dû vivre un peu ou plus clandestinement. Et puis ensuite, après la guerre, en 47, il y a eu une loi d'amnistie qui a été
promulguée.
Dont l'idée est revenue à la Soprotimis, c'est-à-dire une société de protection aux immigrants juifs. Cette société a proposé au gouvernement de Perón, qui était alors le gouvernement, le général Perón, de faire l'amnistie pour tous les immigrants clandestins. Si bien que 6 000 juifs ont été bénéficiés par cette amnistie, mais on savait très bien également que tous les éléments nationalistes d'Allemagne, beaucoup d'éléments polonais, etc., ont également bénéficié de la même loi. Mais bon, ça a servi aux Juifs.
Et vos parents, vous savez pourquoi ils ont choisi l'Argentine? Des gens là-bas
Non, mes parents n'ont pas choisi l'Argentine. Non, mon histoire n'est pas exactement comme celle des autres. Moi, je suis partie de France à 21 ans. Ah oui, je suis partie parce que je me suis mariée avec un Argentin. Et nous sommes partis vivre en Argentine, puisque c'est là qu'il vivait. Je suis la seule. La plupart des personnes qui sont dans mon livre sont arrivées, alors, 4 ou 5 en 41, 42 et 43, et tous les autres en 47, 48 et même 50.
Après l'amnistie, d'accord.
Oui, c'est ça.
Eh bien, je vous remercie beaucoup, Hélène Gutkowski, d'être venue ici. Et puis, j'invite évidemment nos lecteurs à se procurer ce premier volume de votre livre, de La France occupée à la Pampa, Mémoire entrelacée de 30 Juifs survivants émigrés en Argentine, dans la collection Témoignages de la Shoah, de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Le deuxième volume est en préparation, donc il sortira...
Oui, j'espère qu'il sortira bientôt, que j'espère le terminer à la fin de l'année, j'espère. Et ensuite, bon, il y a les temps d'édition qui parfois sont un peu trop longs. Mais si tout va bien, je ne pense pas que ce soit l'année prochaine, mais peut-être l'année d'après, j'espère revenir.
D'accord, très bien. On vous accueillera à nouveau, en tout cas. Voilà, ce premier volume et ces témoignages particulièrement forts sont disponibles actuellement. C'était Mémoire vive. Vous pouvez retrouver l'émission sur le web, radio-rcj.info ou mémoirevive au pluriel.net.